Un livre des livres, le podcast qui va vous faire aimer la littérature sous toutes ses formes. Lectrice, lecteur, autrice, auteur, éditrice, éditeur, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Un livre des livres. Un livre des livres, le seul podcast qui traite de toutes les littératures avec un jeu de mots qui passe toujours aussi bien à l'écrit, malheureusement moins bien à l'audio. Dans ce nouvel épisode consacré à la bande dessinée, je vais vous parler d'un énorme coup de cœur pour une série passionnante. Il s'agit de Visage, ce que nous sommes. Paru chez Glénat, c'est en 4 tomes, et une fois que vous aurez écouté ce podcast, et ben vous foncez chez votre libraire et vous me les achetez pour les dévorer, car vous n'allez pas regretter une seule seconde. Comme je vous le disais en préambule, pour moi c'est un immense coup de cœur sur l'année 2023-2024. Alors c'est lors de l'édition 2023 du Festival de la bande dessinée d'Angoulême que le hasard a fait en sorte que je découvre cette série passionnante. Flânant dans le stand de Glénat, j'étais attiré par une pile d'albums. Sur la couverture, il y avait un visage de soldat de la Première Guerre mondiale, avec un joli casque adrien, une très belle colorisation. Il était en position 3 quarts, avec un regard à l'extérieur, mais avec un regard qui n'était pas hagard, qui n'était pas ce qu'on pouvait voir dans la propagande, mais qui tournait vers l'horizon, mais avec une légère mélancolie. Il y avait quelque chose, ce regard, qui m'a vraiment interpellé, tout comme le dessin d'ailleurs, qui m'a interpellé également.
De toute beauté.
Du coup, je retourne la quatrième de couverture, je lis le résumé, ça me plaît, hop là, je passe en caisse, et à ce moment-là, c'est là que je m'aperçois qu'il y a un sticker sur le tome que j'avais dans les mains, avec marqué « Auteur en dédicace ». Trop de bol, me dis-je sur l'instant, et c'était le destin qui avait décidé ainsi, parce que du coup, en attendant mon tour dans la file d'attente, qu'est-ce que je fais? Et ben, je lis forcément le tome, en tout cas, je le commence, et puis là, grosse délectation, parce que ma passion pour cette période de l'histoire, qui est la Première Guerre mondiale, m'a complètement berné. Je me suis fait avoir par la couverture, en fait. Hein. Ce titre est nettement plus profond, plus fort, plus mémoriel, en fait, que ce à quoi je m'attendais. Arrivé face aux auteurs, après avoir attendu mon tour patiemment dans la dédicace, la discussion s'est engagée rapidement et nous commençâmes à discuter de la notion de mémoire, d'identité, qui sont vraiment au cœur de ce projet, projet original dont les auteurs m'ont confié qu'il a pris 9 ans à être réalisé. Chose rare, les éditions Glénat avaient décidé de sortir les 4 tomes de l'histoire sur toute l'année 2023, du coup en quelques mois. Un retard de dernière minute a décalé la sortie du tome 4, qui est du coup sorti en janvier 2024, pile poil pour le festival de la bande dessinée. Comme le dit l'une des scénaristes, Nathalie Ponsard-Knecht, c'est un mal pour un bien finalement. Parce que là, quelle belle vitrine que de sortir ce tome pour ce festival international. La boucle est donc bouclée à l'instar des différents récits, des différents personnages qui composent l'histoire de Visage, ce que nous sommes. J'avais eu la chance de chroniquer le tome 1 pour le site BD Geste.
Autant promo.
Un petit peu d'autres promotions, ça fait pas de mal. Et à cette occasion, j'avais fait un rapprochement avec les écrits du romancier anglo-saxon Ken Follett au niveau du côté grande saga familiale racontée de très belle manière avec la technique de Ken Follett qui est celle du page-turner mais qui est pas du tout ici celle des deux scénaristes. Et on a deux scénaristes sur cette série, donc Nathalie Ponsard-Knecht que je vous évoquais, ainsi que Mayol Bosang-Ogrifea. Ils ont pris un petit peu leur histoire personnelle, ils ont pris de la grande histoire, ils sont dans une démarche où c'est l'histoire individuelle qui va amener, du coup, et s'insérer dans la grande histoire avec le grand H. C'est passionnant, c'est bien fait, c'est extrêmement bien fait, et comme je vous le disais, c'est les dessins d'Aurélien Morinière qui m'ont vraiment beaucoup plu en couverture, et qui ensuite m'ont beaucoup plu à la lecture, même s'il en a souffert. Vous allez pouvoir l'entendre dans la suite de ce podcast car j'ai eu la chance, cette année, lors de l'édition 2024 du Festival d'Angoulême, d'avoir une interview des 3 auteurs de la série Visage. Alors c'était génial. Bon, on était un petit peu en relation c'est un bien grand mot, mais à partir de la sortie du tome 1, on était resté en contact en fait via les réseaux sociaux, à partir des chroniques papier que j'avais pu faire, des petits messages de temps en temps, on prenait des nouvelles, on se suivait, et puis on avait réussi à convenir d'un rendez-vous pour le festival d'Angoulême. C'était vraiment génial, je me suis senti hyper chanceux, vraiment sur un petit nuage. On a pu avoir une salle dans la mairie d'Angoulême, je remercie la mairie d'Angoulême de nous avoir prêté cette salle pour l'interview. Alors malheureusement la salle était un peu vide, ça fait un espèce d'effet cathédrale au niveau de l'enregistrement que j'avais pas dans le casque. Alors je m'en excuse auprès des auteurs, j'ai essayé de travailler le son au mieux possible pour vous chers auditeurs, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas c'est une interview assez particulière dans le sens où c'est très vite devenu une discussion en fait. Vous allez l'entendre, j'ai fait très très peu de lancements. Et il y avait un jeu de réponses entre les trois auteurs. On voit bien qu'il y a eu 9 ans de travail et que ça a créé plus qu'une connivence en fait. Ça a vraiment créé des liens solides, des liens très forts entre eux. Et c'était vraiment purement magique. Enfin, moi je buvais du pied, j'étais vraiment sur un petit nuage à les écouter et à participer, à être intégré dans cette conversation avec eux. C'était vraiment fortement plaisant. Même s'ils étaient pris par toutes leurs obligations, on a passé plus d'une demi-heure ensemble et je tiens en toute humilité à les remercier très très chaleureusement d'avoir pris de leur temps sur le festival et qu'on ait pu enfin se rencontrer en vrai tranquillement. C'était vraiment super sympa et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur les nouveaux travaux qu'ils vont lancer. Nous en parlerons un petit peu également dans l'entretien qui va suivre. Allez, place aux artistes et je vous laisse découvrir l'entretien des auteurs de Visage, ce que nous sommes, réalisé lors du Festival d'Angoulême 2024. J'ai la chance d'être entouré des trois auteurs de la série Visage parue chez Glénat. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Le festival se passe bien ?
Oh, super. Moi, je suis à moitié mort, mais oui, super.
Comme à l'accoutumée.
Comme à l'accoutumée, la série, ouais. Donc, amis auditeurs, on a commencé à discuter un petit peu avant d'enregistrer. Il y a une bonne raison pour laquelle l'un des scénaristes est en voie de disparition, qu'on ne dévoilera pas, mais qui...
Ah oui, je dois me présenter ça. Donc, je suis Mihor Bosin Griffa, donc je suis moitié irlandais, moitié chilien. Je suis en France depuis l'âge de 10 ans, et c'est pour ça que je suis, en plus d'être co-scénariste de Visage, je suis aussi l'interprète officiel du Festival d'Angoulême, anglais, français, espagnol, depuis au moins une quinzaine d'années, voire 20. Voilà, donc ce qui fait qu'en plus d'aller à la table de dédicace, je cours partout à assurer les rencontres, j'adore ça, mais c'est un petit peu fatigant, voilà.
Ok, moi, Nathalie Ponsin-Goudknecht, je suis avant tout de formation graphiste directrice artistique et co-scénariste sur ce projet de Visage avec Néol.
Et moi, je suis Aurélien Morinière, dessinateur coloriste sur cette série, puis globalement, illustrateur aussi, et voilà.
Et peintre.
Et peintre, oui. Je sais plus, je crois que c'est le 26e bouquin, le 27e, je sais plus, le tome 4 de Visage, je sais plus.
Freeman.
Non, mais. Donc, j'ai tendance à me considérer encore comme un jeune auteur, mais je crois qu'il faut que j'arrête de considérer que je suis un jeune auteur.
On est jeune dans sa tête.
C'est un état d'esprit, la jeunesse.
Ah, exactement.
Il paraît, mais je crois que c'est surtout un mensonge de dire ça.
Ouais, je dis ça parce que je suis le doyen du groupe.
Alors, j'aimerais que vous nous racontiez, comment vous êtes rencontrés sur ce projet, comment ce projet est né.
Alors, on s'est rencontrés. Alors déjà, Nathalie et moi, on s'est rencontrés via une amie commune. On est allé à son anniversaire, un truc tout à fait trivial.
Il y a dix ans.
Voilà. En plus, le début, ça s'est un peu mal passé parce que je me suis mis sur sa route et donc pour aller embrasser notre copine Corinna, qu'on salue au passage. Et voilà. Et puis je me retourne, je vois Nathalie et je dis tiens, elle a l'air marrante. Là, je vais l'embêter un peu, donc je l'empêche de passer. Donc là, très rapidement, elle m'a fait comprendre que bientôt, elle allait me dessouder. Donc, je me suis dit « Ok ». Et elle s'est dit « Je vais régler son compte à ce casse-pied ». Et donc, on s'est mis à parler. Et en fait, a démarré ce qui a servi plus tard pour Visage, une sorte de ping-pong verbal où on s'est dit « Ah ouais, quand même, il y a du level ». Et on a monté la barre, Ce qui fait qu'au bout d'un moment, au niveau de la fête d'anniversaire, les gens autour, ils se sont dit « Vous savez, on est là aussi. Hein, y a un truc qui se passe, donc vous pouvez arrêter ». Donc voilà, Et ensuite, Nathalie, en fait, allait faire une première, parce que en tant que graphiste, elle est multicasquette, quoi. Et elle allait être directrice artistique pour le tournage d'une pub pour la Fédération des chiens guides d'aveugles. Elle cherchait un rédacteur, et voilà, la rencontre. Et ensuite, tu veux peut-être compléter?
Pardon. On a fait ce spot ensemble. Ce qui était vraiment intéressant, moi, c'était le premier spot que je faisais. On m'avait proposé ce projet. J'aime bien essayer des nouvelles choses, donc j'étais partie avec aussi l'aide de Mio, qui avait l'habitude de déjà découper les récits. Et on a vraiment travaillé sur une histoire longue, sur un format très court. Et du coup, c'était un vrai exercice de style de découpage. Et à des moments, l'agence avec qui on travaillait, le client, ils ont commencé à dire « Oui, mais vous êtes trop long, la narration est trop longue et tout ça. » Et moi, j'étais persuadée vraiment que ça allait marcher. Je le sentais comme ça. Et Niol m'a soutenue. On s'est battus tous les deux pour arriver à proposer la vision qu'on avait et ça a fonctionné. Et là, je me suis dit « C'est super, on peut vraiment travailler ensemble. » Et il y a eu aussi un autre truc qui, pour moi, était déterminant, parce que je ne serais pas partie dans cette aventure si je n'avais pas eu une certitude que ça pouvait fonctionner. C'est qu'une fois, je lui envoie un truc et je lui demande son avis. Il me renvoie un mail. Et c'est la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que ce mec, c'était moi qui l'avais écrit. Et là, je me suis dit...
Je suis Nathalie.
Exactement, analysé comme moi, structuré comme moi. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, on peut travailler, on peut vraiment travailler ensemble.
Ce qui est rigolo, c'est ce que vous dites toutes les deux sur le fait qu'un récit long réalisé sur un format court, c'est aussi ce qu'on peut dire de la série Visage, c'est-à-dire que c'est une série qui se passe sur plusieurs décennies. Et c'est, alors, c'est un peu plus long que c'est 4 tomes, mais ça reste quand même un récit qui s'étale sur deux générations. Et on a un peu ce même schéma là, quoi.
C'est ça, il nous avait dit oh là, votre histoire, parce qu'il y avait vraiment posé une problématique, il y avait une action, il y avait un déroulé, une chute, donc on racontait beaucoup de choses en 1 minute 30 hein, quand même. Et il disait, jamais ça va rentrer, on a dit si, ça va rentrer, et ça va fonctionner. Et ça a été super, et ça a super bien marché.
Ouais, ça a été un succès.
Et c'est vrai que pour Visage, pareil. On est dit, oulala, 1954 sur 4 tomes, vous n'allez jamais y arriver. Mais en fait, on a quand même le temps d'expliquer les choses, de rentrer dans les détails. Donc oui, t'as raison.
Ouais.
Aurélien, c'est la même chose.
J'ai souvent raison.
Aurélien, c'est le sage. C'est notre psychologue aussi. Voilà.
Donc quand Mio est venu et qu'il m'a dit, bah, tu sais, voilà, tu m'as fait rentrer dans ton univers, moi je te propose de rentrer dans le mien. Je te propose un projet de BD. Je lui dis,
elle savait pas qu'elle en prenait pour 9 ans.
Ça, c'est sûr. Mais je lui dis, mais attends, moi, j'ai jamais fait ça. Il me dit, mais tu sais, le découpage du spot, c'était pareil. Donc, il n'y a aucune raison. C'est juste le support qui change. Et c'est vrai que, bah, de par ma formation, j'ai fait les arts décoratifs. On nous a formés comme ça à être pluridisciplinaires et, en fait, avoir une démarche qui est une démarche unique, mais qu'on peut après adapter au support. Et ça a toujours été pensé comme ça. C'est pour ça que moi, changer de médium, c'est quelque chose, un, qui m'amuse, deux, qui m'intéresse. Et en plus, tout se rencontre, se complémente, ouais. Se nourrit. Et voilà, et cette aventure était encore très...
Et c'est sympa parce que tu as eu une géniale discussion avec Arthur Depins hier. C'était à la soirée Métal Hurlant, qui avait aussi fait les arts déco. Ouais. Pas exactement à la même époque et tout, mais on retrouvait. Ouais, vous avez des profs en commun et c'était vraiment sympa. C'est vrai ce côté, savoir pour faire.
Il y a quand même, il y a une patte, il y a ce côté pluridisciplinaire qui revient tout le temps. Et dans l'équipe, ce qui était super aussi, c'est que comme on est tous différents, on a des formations différentes et on a aussi un regard sur les choses qui est différent. Moi, j'avais un peu l'impression d'être un peu au milieu de vous deux. C'est que Niol, c'est vraiment l'homme des mots, du texte. Aurélien, il est très dans l'image. Et moi, j'étais un peu entre les deux. Avec, comme j'ai fait aux Arts Déco, j'ai une formation en illustration et en gravure. Donc, le dessin, j'ai déjà dessiné. Donc, j'ai une approche du dessin, une vision, une lecture qui n'est pas celle de Niol, qui n'est pas non plus celle d'Aurélien, parce qu'Aurélien, il est peintre, il est illustrateur. Donc, on était vraiment complémentaires et je pense que c'est ce qui a aussi bien fonctionné entre nous.
Et c'est pour ça que ça a tenu, parce qu'une team comme ça, sur 9 ans, faut que ça tienne, quoi. Et pour l'anecdote, il y avait, moi j'avais déjà une série interrompue et je voulais surtout pas que ça se passe. Quand on s'est mis d'accord pour s'arrêter sur 4 tomes, au début on voulait aller jusqu'à la chute du mur, mais on en reparlera peut-être de Bernard. Ouais. Quand on s'est mis d'accord là-dessus, je me suis dit bon, on est pas des stars ni les uns ni les autres. Donc, ils vont sûrement nous dire, chez Glena ou dans la maison qui allait nous signer, vous n'allez pas pouvoir le tenir 4 tonnes. On a décidé tous ensemble de travailler en amont. Et donc, on a fait un dossier qui fait par le graphiste, donc Nathalie était déjà magnifique, fabuleux. Et en plus, on n'a pas inclus dans le dossier, mais on a amené le jour de la réunion avec Benoît Cousin, notre éditeur, sur des grandes feuilles à trois, les chemins de fer complets des 4 tonnes. Ils pouvaient immédiatement voir voilà dans quelle direction ça allait aller. En plus, Nathalie avait mis des pictos pour chaque personnage, pour des couleurs différentes pour les dates. Donc, tout était super
bien. Il y avait déjà une rythmique par album, des dates, par la chronologie colorée. Et on voyait tout de suite quelle période apparaissait dans chaque tome. Et puis, les pictos, la fréquence des personnages. Donc, tout ça, ça a créé une rythmique. Et ils avaient donc la rythmique du tome 1 jusqu'au tome 4.
En plus, comme le récit n'est pas forcément chronologiquement linéaire, c'était bien de pouvoir se repérer. Donc Benoît a dit « Vous êtes des grands malades » et bon, il a signé.
Donc c'est une des conditions pour signer avec Glénat, c'est un peu malade.
Oh, je crois que c'est des conditions pour signer avec n'importe quel éditeur aujourd'hui. Honnêtement, c'est devenu compliqué, difficile. Il faut se battre, ouais, faut y aller. Ouais. Ouais, bien sûr.
Et sur la réalisation même du premier tome, c'est-à-dire quand vous l'avez réfléchi, vous avez présenté le canevas à votre... Je ne peux appeler ça ainsi à votre éditeur, qui ouais. A dit ok, bon coup, on suit. Donc après, il y a eu le travail d'Aurélien, qui s'est rajouté là-dessus. Combien de temps ça a pris du coup entre la réflexion, la réalisation, la sortie du tome 1 ?
Il faut savoir déjà que le choix d'Aurélien n'était pas totalement innocent. Aurélien et moi, on a commencé chez Emmanuel Proust il y a même plus de décennies. Je connaissais le travail d'Aurélien en tant que peintre. Voilà. Quand j'ai dit à Nathalie, il faut qu'on trouve un dessinateur ou une dessinatrice qui tienne la route, parce que c'est un projet comme ça, c'est vraiment pas évident de le tenir, il faut avoir un gros calibre. Quoi. Et donc, j'ai mis étalé sur une table des planches de plusieurs auteurs en plus qui sont souvent des potes. Il y avait Stéphane Perger, il y avait Philippe Xavier, enfin bon, c'était des bons. Et il y avait Aurélien, et notamment, j'ai glissé dedans un des tableaux d'Aurélien, une peinture, quoi. Et là, dès que Nathalie a vu ça, elle dit « C'est qui lui ? C'est chouette ce qu'il fait !» Et tout, et donc, voilà, et on est à l'époque... d'habiter Aurel à Saint-Léonard de Nobla, et j'ai dit à Nathalie, il faut qu'on fasse le voyage, il faut qu'on aille le voir, qu'on lui dise, Aurel, on a un projet, qui est un gros projet, si tu le fais pas, je pense que personne ne va le faire.
Mais... Coup de pression.
On est descendu dans une bagnole de location rose, en plus je me souviens, c'est chiant à conduire comme peu, mais voilà. Donc en fait ça s'est fait comme ça, donc on a vraiment, il y avait pas, c'est pas l'éditeur qui a imposé le dessinateur, c'était le seul et unique choix en fait. J'ai un peu triché parce que je pensais bien que avec sa sensibilité justement des arts déco et tout, elle allait choisir, j'espère. Bon, après les autres étaient super, hein, mais
Aurélien avait une dimension symboliste que j'imaginais vraiment pour ce projet. C'est une histoire d'aventure, c'est très factuel, mais il y a une vraie dimension humaine et ce symbolisme vient vraiment porter ce deuxième niveau de l'histoire. Il a fait ça très bien, d'ailleurs, je ne pourrais pas l'imaginer dessiné par quelqu'un d'autre.
Maintenant c'est trop tard.
On a vraiment bien choisi.
Ouais. Et en plus, on lui avait demandé à l'époque, parce que moi je savais ce qu'il avait déjà fait, les New Beijing et autres avec Corbeyran, on lui avait demandé de faire quelque chose de plus proche de sa peinture que ce qu'il faisait jusque-là.
Ça correspondait à moi une démarche, un virage que je prenais aussi dans mon travail, qui est intervenu au début de Visage et puis avec l'homme book aussi. Et vraiment, ils sont arrivés avec une demande, moi, qui correspondait à mes besoins. Parce que je ne renie pas du tout ce que j'ai fait avant, mais je me suis beaucoup adapté à... J'ai fait beaucoup le caméléon et ça m'a appris énormément de choses, c'était très chouette. Mais là, il y avait un besoin d'affirmer d'autres choses, plus personnelles, plus intimes. Et étant donné que c'est un récit qui parle de l'intime, beaucoup, on était dedans, quoi.
Et puis tu compartimentais beaucoup, hein, BD, peinture.
C'est de moins en moins le cas, du coup c'était un bon moteur pour
c'est
ça.
C'est vrai, je me souviens maintenant comment on t'a vendu. Pardon, je rigole parce que je pense à la suite. On lui a vendu des grandes pages avec beaucoup d'espace.
Ça, par contre, c'était la publicité mensongère. Alors, il y en a eu un peu. Hein. Ouais, mais par contre, je me suis farci des planches avec 15 cases.
Oui, alors là, il disait, vous vous souvenez de...
Ah ouais. Et elle vous rappelait, me dit. Non, mais il aurait fallu qu'on fasse des tomes de 60-70 pages. Ouais. Si on
mais après, t'as vu quand même des beaux espaces.
Oui, oui, mais des fois, waouh.
Ouais, non,
mais c'était compliqué de faire autrement, hein. Je le conçois. Ouais. Mais des fois, je faisais, alors ça va être tendu, ça va être sympa.
Mais ça devait être une sacrée réflexion, parce que pour une histoire, pour ton qu'on l'a dit, déjà sur les trois premiers tomes, où il y a tellement de passerelles qui se fait, enfin, l'inconscient du lecteur, il se met en marche pour créer les... Ouais. Pour remettre dans le sens chronologique, ou pour jouer avec les ellipses. Et quand l'artiste que vous êtes, qui est habitué à des grands espaces, pour il est pas dans votre tête ce moment où vous dire ah, si j'avais 30 pages de plus.
Ouais, ouais. Bah oui, oui. Mais voilà, après c'est. Alors ceci dit, on a travaillé à deux sur la mise en scène en fait, parce que Nathalie, enfin à trois, mais Nathalie avait vraiment une. C'est là où elle faisait le pont en fait. Comme elle est graphiste, elle avait déjà une idée quand même, des indications qui arrivaient. Était assez précise. C'était parfois compliqué parce qu'il fallait placer des éléments visuels dans des espaces qui étaient quand même assez étroits, enfin en tout cas complexes à mettre en articulé, disons. Donc voilà, il y avait quand même une partie du travail qui était fait en amont. Après, il fallait que soit que je fasse rentrer les choses, soit qu'on en discute et que je réadapte en disant ça serait mieux. Il y a des choses qui sont trop complexes qu'il faut simplifier ou faire autrement. Donc c'était de toute façon souple, mais ouais, il y a eu quand même des vrais challenges de mise en scène, comme rarement j'en ai eu.
Et dans le tome 4,
c'est relevé pour le moment.
Mais le tome 4, je le trouve plus libre par rapport à ça.
Ah, justement,
ouais, moi je le trouve, bah oui, je trouve le plus complexe, c'était probablement le 3 et le 2 et le 3. Mais le tome 4, je trouvais que c'était beaucoup plus relevé.
Parce que tu sentais la fin.
Il y a des scènes techniques, notamment celle de l'exode, mais c'est quand même ça respire. Hein. Non, je trouvais que c'était pas le plus difficile à mettre en scène.
T'as géré les espaces de façon plus différente. Enfin, c'est un peu un amalgame de choses, de découpage qu'on a retrouvé dans les autres tomes, et là avec des nouvelles choses en plus. En fait, t'as un éventail de ce que tu as fait et ce que tu sais faire dans le tome 4 qui est vraiment unique.
Mais il y a probablement aussi une évolution de nous trois dans cette série qui trouve alors un climax, une évolution dans le tome 4. Je pense qu'on a tous en plusieurs années. Alors eux c'est 9 ans, moi c'est plus 6 ou 7. Mais franchement, il y a une évolution. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que justement cette évolution, elle sert le récit. Le tome 1, rien à voir graphiquement, il est différent. Il est assez différent des autres. Ah, ça raconte quelque chose, cette différence là, je trouve.
Chaque tome en fait a son identité.
Et c'est pour ça qu'il fallait aussi un dessinateur confirmé quand même, parce que moi je fais un pré-découpage écrit avec Nathalie qui est quand même assez détaillé, avec des angles de caméra, voilà. Et on a même fait pour certaines planches, Nathalie a fait des montages photos
avec des archives.
Ça ferait peur certainement à un dessinateur débutant qui se sentirait peut-être prisonnier du truc. Tandis qu'Aurel, on lui a dit, nous, rien n'est gravé dans la pierre, c'était une meilleure idée, et Dieu sait qu'il en a eu. Voilà, tu fais à ta sauce, mais il faut quelqu'un qui maîtrise son art quand même pour pouvoir tenir ce genre de. Et on avait en plus, Benoît nous avait dit, moi je veux une BD qui soit pas trop rapide à lire. Il dit, ok, t'es sûr? Ok.
Tiens.
On défonce la chronologie, on défonce la chronologie linéaire, on met des trucs, des flashbacks, des flash-forwards, accroche-toi. Ça s'est fait comme ça.
Alors vous l'évoquiez tout à l'heure, les multiples niveaux de lecture de cette série, qui du premier coup d'œil dans un étalage de librairie pourrait faire penser à une série historique. De prime abord, et quand on engage la lecture du premier tome, dès les premières planches, en fait, on est aspiré par quelque chose de très intimiste.
Ah, merci.
Et j'aimerais savoir quelle est la part de vous, en fait, qui ressort de ce côté intime.
Et là, on me regarde. Ok, bon, alors. Alors, au départ, on voulait. C'était le centenaire de la Première Guerre mondiale.
Ouais, voilà.
Donc ça a commencé comme ça. Donc Néo est venu en me disant, voilà, c'est le centenaire de la Première Guerre mondiale, j'aimerais bien qu'on fasse une BD là-dessus. Je lui ai dit, tu sais, des BD, il y en a eu plein. Si c'est pour faire une BD de plus, je vois pas l'intérêt. Parce qu'on a, qu'est-ce qu'on va raconter plus que les autres? Je lui ai dit, bon, après, une BD, elle me dit, oui, mais je veux pas qu'on oublie, je veux que ça reste vivant, qu'on puisse transmettre ça. Je lui dis, d'accord, mais alors peut-être qu'il faut le raconter d'une manière qui parle aux gens. Et on a commencé à débriefer autour de ma table de cuisine, prenant un café. Et on a dit, ok, alors très bien, alors on va dire comme ça, clac, clac, ce qui nous passe par la tête, si on faisait ça, on voudrait parler de quoi? Et on commence, tac, 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 et au bout de 10 minutes, c'était clair, on voulait parler d'identité. De ces identités, de faire le lien avec aujourd'hui, par ce lien de l'identité, du miroir, de la reconnaissance. Et souvent, enfin, en tout cas, moi, c'est mon approche de l'histoire, ça m'a pas passionnée à l'école, parce que pour moi, c'était un résumé de dates et de lieux, et il manquait justement une dimension humaine. Et le seul cours d'histoire que j'ai vraiment imprimé, qui était le plus magnifique cours d'histoire, c'était au collège. Ma prof d'histoire est montée sur la table, et elle a mimé les poilus avec leurs baïonnettes dans les tranchées. Et là, j'ai fait « Waouh !» Parce que là, ça devenait un vrai truc. Et donc, je lui ai dit « C'est ça, en fait. Il faut qu'on arrive à créer ce lien. » Et donc, du coup, parler de l'histoire autrement. Pas de ce qui s'est passé, mais de ce que les gens ont vécu de cette histoire. Et du coup, ça a été notre angle d'approche. Et tout ce qu'on a essayé de construire, on l'a construit à partir de témoignages. Donc pour les poilus, c'était les lettres des poilus. Après, plus on devenait contemporain, plus on a eu du matériel de plus en plus vivant. Donc bien sûr, on a essayé d'être juste historiquement. Mais ce n'est pas notre formation, personne n'est historien. Donc on a quand même fait des recherches pour essayer d'être
pas
juste.
Pas trop faire de boulettes. Ouais.
Voilà. Mais la véracité qu'on cherchait, nous, c'était cette véracité humaine. Donc on a travaillé à partir d'histoires, de témoignages vécus, de gens qui ont raconté leurs petites histoires dans cette grande histoire, de nos histoires familiales propres, de nos vécus personnels. Et voilà, on a de ce que les gens nous ont confié, parce que quand on a commencé à dire qu'on travaillait sur cette BD, plein de gens se sont mis à raconter des histoires, moi des gens que je connaissais depuis 20 ans, ou même des gens dans ma famille, des histoires que je n'avais jamais entendues. Parce qu'en fait, on leur avait jamais laissé l'espace de ça. Personne ne leur avait dit, mais vous, qu'est-ce que votre famille a vécu, Et là, de dire, voilà, nous, ce qui nous intéresse dans cette BD, ce qu'on cherche, c'est l'histoire des gens, les gens se sont mis spontanément à parler. Et c'était impressionnant, passionnant. Donc bien sûr, on ne peut pas raconter l'histoire de tout le monde dans cette BD, mais les choses qui nous paraissaient intéressantes à transmettre, qui avaient du sens, qu'on voulait partager, qui aussi, parce qu'en arrière-plan dans cette BD, on pensait à nos enfants et aux enfants, donc des choses qu'on pensait importantes de transmettre, on les a intégrées à notre histoire. Voilà, c'est ça.
Et c'est pour ça qu'on est vraiment parti des personnages. Voilà. C'est la tradition américaine du character-driven story, c'est vraiment tout axé sur les personnages plutôt que simplement l'intrigue. Ce qui fait que forcément, sans trop spoiler, la rencontre de nos deux personnages, disons, principaux, Louis et Lieselotte, No Man's Land, il y a une sorte de suspension d'incrédulité nécessaire quand même, mais c'est vrai humainement, et c'est ça qu'on voulait. On voulait cette véracité émotionnelle, et c'est ça qui comptait plus que rien.
Aurélien, il avait cette partie très importante, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur les personnages en amont, même avant de débuter l'histoire. Et donc, Aurélien, il est arrivé à donner au physique des personnages une représentation de leur état psychologique, émotionnel, et en plus, après, il le fait évoluer au fil des années. Et ça, c'était hyper important que cette partie.
C'est plus ça qui fait sens d'ailleurs, parce qu'en fait finalement les personnages au début on avait des intentions les uns les unes les autres, on savait où ça allait mener, mais on n'avait pas vécu dans le récit ni en écriture pas encore complètement ni dans le dessin. Donc c'est des choses qui se sont révélées dans le dessin et dans l'écriture au fur et à mesure des albums. Et c'est la première fois moi que je fais évoluer des personnages. Je pense que c'est pareil pour évidemment toi, c'est la première année, mais toi c'est pareil. Faire évoluer des personnages sur plusieurs générations et sur des drames, des aventures et mésaventures sur tant d'années. Mais forcément, ça marque la façon dont on dessine les personnages et dont on les investit émotionnellement. Et les amener jusqu'au bout de ce récit, c'est quand même une sacrée aventure pour nous aussi. Et forcément, il y a quelque chose. Alors moi, j'ai pas d'implication historique dans les personnages. Je suis plutôt un vecteur de leurs histoires personnelles et des émotions qu'ils veulent transmettre. Mais justement, moi, je me je me je pense que, étant donné que je suis un vecteur pour eux, je pense que c'était la meilleure position peut-être pour transmettre quelque chose qui vienne, enfin qui était important pour mes deux scénaristes.
Vous l'avez évoqué, Nathalie, cette envie de transmettre cette mémoire familiale, très proche de la démarche de Microstoria italienne en partant de l'individu qui contribuerait à l'histoire et non pas l'histoire qui écraserait l'individu. Ça n'a pas été trop pesant, du coup, de mettre des éléments personnels, familiaux dedans?
Non, ça n'a pas été pesant parce qu'en fait, il s'est passé plein de choses. Et on parle d'aventure humaine, mais cette BD était en soi une aventure humaine. Pour chacun de nous, à des degrés différents, mais et avec moi, ça l'était aussi. C'est-à-dire, en fait, quand j'ai accepté de la faire, mes enfants sont franco-allemands et c'était une façon de répondre à des questionnements qu'ils avaient. Je me suis dit, je suis leur mère, je les mets dans une position identitaire qui n'est pas évidente. C'est à moi de, par cette BD, je voulais ouvrir des portes pour qu'ils puissent éventuellement chercher des réponses. Parce que la BD, on ne donne aucune réponse, on soulève des questions, mais chacun, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une réponse, chacun doit trouver sa réponse. Donc cette BD, je l'ai faite pour mes enfants, avec cette démarche de vouloir essayer d'apporter des informations. Et en fait, je me suis aperçue que j'ai répondu à certaines de mes réponses et interrogations. Je n'aurais jamais fait cette démarche pour moi, je l'ai faite pour mes enfants. Et en fait, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de réponses. Et donc du coup, non, je ne regrette pas. Au contraire, ça a été très enrichissant. Ça m'a permis de faire un vrai cheminement de vie. J'ai aussi beaucoup changé pendant cette BD. Oui, c'est vraiment une aventure du début jusqu'à la fin. Une très très belle aventure vous concernant.
Bah oui, sur le côté personnel, moi je me sens irlandais plus que quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, le traitement de l'Irlande, il y a des choses totalement vraies. Par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale, l'ennemi traditionnel de l'Irlande, c'était l'Angleterre et pas du tout l'Allemagne. Donc là, il y avait beaucoup d'Irlandais qui n'étaient pas du tout prêts à aller se battre du côté des Anglais. Et, vous voyez pas où était le problème, puisque là, ça allait peut-être donner l'indépendance à l'île si les Anglais étaient occupés. En revanche, il y a aussi d'autres passages qui, moi, m'ont permis de prendre une sorte de revanche sur l'histoire. Par exemple, à un moment, on fait évader le personnage de Liam de la prison de Kilmainham. C'est la prison où ont été exécutés les grands patriotes de notre révolution à nous en 1916, les Pâques sanglantes. Personne ne s'est réellement évadé jamais de cette prison. Donc voilà, donc du coup c'était une petite revanche et un hommage à tous ceux qui avaient été fusillés dans la cour. C'est une prison qui aujourd'hui est transformée en musée. Quand vous arrivez dans la cour, ils ont été exécutés, je peux vous dire, vous avez le frisson, vous le sentez. En tout cas nous, les Irlandais, on le sent. Et du coup voilà, c'était aussi ça, il y a ce côté parfois aussi magique, symboliste que j'ai... Là, moi, ça a été plutôt ça, le côté perso.
Et pour vous, Aurélien, du coup, est-ce qu'il y a par rapport à votre style graphique, le fait que vous étiez, comme vous dites, un vecteur pour eux, pour les mémoires de vos deux scénaristes, est-ce qu'il y a quand même quelque chose de vous qui a pu transpirer dans votre création?
Forcément, oui. En tant que dessinateur, c'est difficile de faire autrement, en principe. J'acquiers l'impression d'acquérir une forme de liberté nouvelle depuis ce moment de démarrage de la série. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui l'a provoqué, hein. C'est ce genre de thématique qui permet ça, je pense. Et puis, la liberté ouverte, la liberté demandée par mes scénaristes, ils m'ont dit, voilà, non, il faut que ce soit toi. Ça a été en claquant des doigts que c'est arrivé, hein. Mais en tout cas, j'ai senti la nécessité de m'ouvrir à des choses plus personnelles. Voilà, c'est pas lié à mon histoire, mais probablement à comment j'aborde le récit, la narration et la sensibilité graphiquement, quoi. Après, ça, c'est moins avec des mots, je peux moins le formuler, c'est plus que, c'est aussi de l'ordre de l'intime.
Au niveau des couleurs, tout le travail que il y a le dessin, mais toutes les émotions que tu fais passer avec les différentes ambiances colorées en fonction des conflits, des périodes,
Oui, mais alors c'est un truc que justement je j'ai pas réfléchi vraiment, c'est que je me suis laissé porter, donc c'est quelque chose qui est plus instinctif. Je suis pas quelqu'un de très intellectuel dans mon dessin, dans ma manière d'aborder la BD. Je suis ni angoissé ni intello. là-dessus. C'est pas du tout une critique par rapport à cette démarche.
Cette énergie-là, en tout cas. Mais du coup, c'est plus lent de me faire évoluer. Je pense qu'il faut des coups de rein. Et ce genre de projet est une forme de coup de rein pour pouvoir bouger de mes lignes d'un petit confort qui s'était installé depuis une dizaine d'années.
Mais c'est bluffant d'ailleurs parce que quand on voit les planches ancrées par Aurélien, déjà la force de son noir et blanc, le travail sur les ombres, les niveaux de gris et tout ça, on est déjà bluffé. Et après, on se reprend une deuxième claque avec les couleurs qui rendent tout ça flamboyant. C'est à la fois flamboyant et extrêmement humain, quoi. C'est vraiment symboliste, ouais. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc ça, en découvrant le tome 4, je me suis dit, ah ouais, waouh, quand même, quel...
Ah, c'est vrai, hein. Plusieurs fois je l'ai déjà dit, mais on voyait les planches en noir et blanc, en plus on les avait écrites, mais ça arrivait et moi je pleurais.
Ouais.
Il y avait tellement d'émotions, ça coulait tout seul. Et après je me disais, bon, c'est bon, arrive la couleur, je me suis dit, j'ai un peu rayon noir et blanc, c'était fait, bon, hop, deuxième couche. Donc c'est vraiment ça, il le fait, enfin, en tout cas pour moi, il le fait passer très très bien.
Mais c'est pas un projet, on peut être neutre de toute façon, c'est sûr. Non. Donc on a tout donné, on est très content, et les retours des lecteurs en dédicace, c'est absolument génial, parce que c'est une série qui déclenche des histoires, où les gens, effectivement, comme tu disais, même au début, quand on a commencé, mais encore maintenant, quand on se retrouve en dédicace, ça avait été le cas à Amiens notamment, je me souviens, les gens vont nous raconter leur propre histoire, qui ne sont même pas dans la temporalité ou les pays évoqués dans le récit. Mais pas nécessairement. On a eu des trucs sur la guerre d'Algérie, on a eu des récits... Et waouh, quoi, c'est là. D'ailleurs, nous, on embête tout le monde en dédicace parce qu'on met toujours une chaise de l'autre côté. Voilà. On va piquer celle de je ne sais pas qui. Et on les met de l'autre côté pour que, voilà, les gens, ils soient un peu à hauteur, à la même hauteur et qu'il y ait un échange, quoi. C'est ça qui nous intéresse.
Oui, c'est une BD qui permet, du coup, une nouvelle interaction avec les lecteurs.
Puis c'est l'œuvre ouverte. Maintenant, elle leur appartient. Ça y est, c'est ça.
C'est un peu la même chose que quand t'as un chien, tu rencontres des gens qui ont un chien aussi.
C'est ça.
En parallèle, peut-être pas très très fort.
C'est un beau griffon, quatre beaux griffons.
En fait, je crois que ça libère la parole. C'est à partir du moment où on dit déjà votre histoire nous intéresse et on raconte l'histoire de plein de gens et il y a plein de choses vraies dans la. Bah, du coup. Les gens osent. Et tu te souviens de cette femme qui avait une Alsacienne qui avait plus de 70 ans, qui est venue et qui nous dit « Moi, je suis un enfant de la honte. » Et là, c'était quand même...
Ouais.
Ok. Et voilà, mais c'était... Et son mari était un peu plus loin, il n'osait pas venir. On sentait, c'était... Et elle avait... Ça lui a fait du bien de le dire. Ça lui a fait du bien. Et d'un seul coup, elle était légitime. Donc on vit des moments comme ça et on se dit rien pour ça, ça valait le coup.
Ouais. On espère être bientôt remboursé par la sécurité sociale.
Alors dernière question avant de vous libérer pour vos multiples missions de la journée.
Faire peur.
Ouais. Est-ce que dans un avenir plus ou moins lointain, l'envie de retravailler tous les trois ensemble se manifeste, reste dans un coin de votre tête, ou vous avez envie de reprendre un petit peu des chemins séparés avant de revenir ensemble?
Les deux à la fois. En fait, on fait ça un petit peu par pair, puisque avec Nathalie, on a un projet dont on va peut-être pas trop parler tout de suite, mais qui a une sorte de réponse des enfants aux adultes sous une autre forme, probablement d'un roman graphique à voir.
Dans Visage, tout simplement, la question qu'on pose aussi, c'est que vont faire nos enfants avec cet héritage-là? Déjà, dans les mêmes situations que nous, comment ils réagissent? C'était un peu le propos des quatre tomes. Mais les générations d'après, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet héritage-là? Et donc, le projet qu'on est en train de construire, c'est une réponse des enfants.
Voilà. Et il y a un lien avec le fait que quand on était en train de se documenter sur le tome 4, Deuxième Guerre mondiale, une partie se passe dans les camps, donc on était en train de regarder des images et des vidéos en noir et blanc super dur à endurer, et à un moment on se dit, bon, parce qu'on travaillait toujours un jour chez Nathalie, voilà, c'était ça le principe de l'écriture, on pouvait faire des choses à chacun de son côté, mais après au moins on se réunissait une fois par semaine. Et donc on se passe une journée de vraiment un peu hard, et on décide de monter et puis d'allumer la télé. Et hop, on voit en couleur les mêmes images que ce qu'on avait vu en voir avant, la guerre en Ukraine venait d'éclater, quoi. Donc il y a ça aussi, c'est que on est dans une crise identitaire en ce moment dans l'Europe, absolument sans précédent. On revoit des guerres qu'on n'attendait plus. Enfin, on a cette impression, non pas que l'histoire se répète, mais surtout que les gens n'arrivent pas, à, semble-t-il, à tirer des leçons de l'histoire. Voilà. Donc il y a un petit peu dans le nouveau projet qu'on élabore en ce moment, il y a un peu un lien pour montrer en gros que Visage, c'est pas juste du passé, c'est aussi inscrit dans le présent. Et par ailleurs, avec Aurel, on a un petit projet là où on va revenir un petit peu à nos amours, la BD de genre, voilà, un peu horreur fantastique.
Le truc, c'est que au début, j'avais dit, bon, l'histoire, je mets de côté, je ne veux plus en faire. Et en fait, quand j'ai fait une sorte de co-écriture, ouais, en fait, mon idée, elle démarre par la Première Guerre mondiale.
Super. Ouais. Encore.
Bravo. Donc c'est juste, voilà. Après ça part un peu dans quelque chose de beaucoup plus psychédélique.
Ouais.
Mais le démarrage quand même.
Le démarrage, c'est vrai. Il est comme quoi on se refait pas.
Il faut avoir mis le pied dedans.
Voilà. Après il faut quand même préciser parce que les gens me demandent beaucoup. On n'a pas du tout prévu un deuxième cycle de Visage. Pas du tout, du tout. C'est comme les séries télé, il y a un moment, il faut arrêter. Voilà, au bon moment, sortir quand tout va bien.
Oui, vous êtes arrivé au bout de ce que vous vouliez dire, de ce que vous vouliez exploiter. Aucune utilité de faire un second cycle.
Ah bah non, puis repartir pour 9 ans, non. C'est ça. Voilà. Après, c'est au lecteur de se l'approprier, comme... Tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment déjà le lecteur, par le médium de la bande dessinée, il participe beaucoup, puisqu'on sait très bien que ce qui se passe dans la gouttière, entre les cases, bah, c'est le mental du lecteur qui va, l'esprit du lecteur qui va reconstituer ce qui se passe. Mais là, en plus, avec notre chronologie un peu éclatée, puis c'est à eux, maintenant, ça leur appartient. Moi, je pense que je pars par une bonne petite dépression postpartum, parce que voilà, ça y est, c'est là, c'est dehors, ça nous appartient plus totalement, et tant mieux. Voilà, tant mieux, et on espère vraiment que Visage soit une série qui dure, voilà, qui s'inscrive un peu dans le temps et qui trouve son lectorat petit à petit. Voilà, c'est pas fait pour être un blockbuster, c'est pas fait pour être un truc tout en poudre aux yeux, quoi. C'est nous on a mis tout ce qu'on avait, et on espère que les gens vont se connecter petit à petit. Voilà.
Merci à tous les trois.
Merci.
Merci. Merci.